9h dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les filles.
Mais salut Guillaume.
Qu'est-ce que vous faites assise par terre? Plus de redevances, plus de chaises, c'est ça?
Viens avec moi, toi, faut que je te parle.
Mais qu'est-ce qu'il y a?
J'ai trouvé Juju dans cet état en arrivant ce matin.
Ah bon, elle est en gueule de bois?
Non, elle est sobre comme un rabbin, figure-toi.
Ah ouais,
elle a jugé utile de s'enfermer dans le bureau depuis vendredi soir.
Alors,
c'est un gars de la sécu qui m'a dit ça.
Mais pourquoi faire?
Bah, je crois qu'elle voulait éprouver ce qu'a vécu l'héroïne du roman d'Irène Frein. Tu sais, c'est un genre de Robinson Crusoe.
Ah ouais, la méthode acteur studio,
ouais.
D'accord. Elle s'implique beaucoup trop dans les interviews, là,
Juju. Aussi, ouais, voilà. Donc depuis ce matin, elle chante en boucle un truc que personne ne comprend.
Mais ça change pas trop d'habitude, non?
Mais Guillaume,
bah, oui.
Elle parle plus un mot de français.
Ah,
elle
ouais
parle une langue qu'elle a inventée. Moi, je suis à deux doigts d'appeler SOS Médecin.
Oh là
là,
non, alors attends, je m'en occupe, je m'en
ouais
occupe.
Vas-y, ouais.
Juju, combien j'ai de doigts, Juju?
Cafu Kliteka,
oh. Oh la vache, ouais. Alors attends, on va essayer un truc. Ouais. On va réveiller ses instincts antérieurs. Charline, quand je te fais signe, tu
ouais
déclenches un de ses sons fétiches. D'accord, t'es prête?
Ok, ouais, je vois, ouais.
Ok, on y va. Juju, tu sais ce que t'es? T'es une mamine d'élite. Et tu sais ce qu'elles font, les mamines d'élite? Elles se relèvent et elles foncent en ranger sa boucle cloutée. En avant, Charline, à toi.
Ok.
Vas-y. Ok, attention. 3, 2, 1.
Hé hey, salut, copain.
Et voilà.
C'est l'heure de l'apéro ou pas?
Et voilà le travail.
Inter et bienvenue au Sporting Club de la rigolade. Voici la devise du jour. Le souvenir, c'est la présence invisible de Roselyne Bachelot,
oh,
Jean-Michel Blanquer,
oh,
Marlène Schiappa,
oh,
et Barbara Bombili.
Il y a une fin, tout le sens.
Ah non,
super
je sais pas pourquoi j'ai envoyé mon bras. J'ai envoyé mon bras pour envoyer un son, alors que rien n'a
voir. Et vous avez vu comme vous êtes écouté en régie.
Effectivement,
hein.
C'était pour
voir si c'était pas le bon moment.
C'était pour voir si en régie vous suiviez.
Et ils ont tellement peur de se faire engueuler qu'ils l'ont quand même envoyé, quoi.
Voilà, c'est là maintenant que j'entame mon sommaire. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais cette émission. Je découvre ce qu'est un conducteur. Alors, en politique, les slips sales se lavent en famille. Quand un ministre, un élu ou un candidat est soupçonné d'agression sexuelle, bien sûr, tout le monde savait.
Il y a une feinte ou ils sont super cons?
Ah non, ils sont super cons.
La langue de l'ex-président américain George Bush a fourché il y a quelques jours. Il pensait condamner, je le cite, l'invasion brutale et injustifiée de l'Ukraine. Et il a dit de l'Irak, le pays qu'il a envahi de manière brutale et injustifiée il y a 20 ans. On a bien ri. Et puis on a pensé à Camus, mal nommer les choses et ajouter au malheur du monde. Mal dire les mots également.
C'est un porno?
Je pensais que c'était Spartacus, mais c'était Spartacu. J'ai pas fait attention à la consonne finale.
Ces mots qu'on prononce 500 fois par jour, tu vois? Ils ponctuent nos phrases à l'oral. Et du coup, ils exaspèrent l'interlocuteur, en fait. Qui pourtant, lui aussi, a les siens. Voilà.
Ouais. Non, mais voilà, après, bon, d'accord, mais personnellement, c'est vrai que, bon... Voilà, mais clairement, ouais.
Et aujourd'hui, à mes côtés, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline, et en l'honneur de notre invité, nous avons réuni une équipe d'archivistes méticuleux, avec d'abord celle qui répertorie les mœurs outre-Quiévrin et nous les livre. Je la soupçonne de faire la même chose en Belgique avec ce qu'elle observe de notre tribu primitive de la France interbe. Bref, c'est un agent double. Bonjour Laurence.
Bonjour, alors aujourd'hui, ça va être la voix de l'autosum. L'autosum, c'est quand une Belge est fâchée contre le Belge plutôt que contre le Français.
Ça, je sens que ça va être passionnant.
Ça vous excite?
Oui. Alors, je vais peut-être pas exciter, mais je suis motivée en tout cas.
Moi, oui.
Oui, mais vous deux, pas y en croire. Et vous êtes excitée. Lui a un périmètre d'action bien plus vaste. Il archive toute parole venant de la rue française et proférée par ce qu'il appelle les gens.
Oui.
Heureusement pour le reste du monde, il n'ira pas là-bas. Il ne parle que français. Il y a tout de même une justice en ce bas monde. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Bah, moi, je suis allé au grand rendez-vous des survivalistes à Paris, figurez-vous.
Oui.
Et j'ai appris plein de choses qui seront utiles, donc, du coup, après l'apocalypse.
Les préservatifs sont des très bons élastiques pour le lance-pierre.
Voilà, par exemple. Ça, vous saviez pas, ça?
Non.
Bah, maintenant, vous savez.
Elle trie, elle classe et elle range les livres et ceux qui les écrivent selon une méthode ultra complexe, mais avec une règle ultime, indépassable. Tout en haut, à la fin, c'est Flaubert qui gagne. Bonjour Clara Dupont-Moretti.
Bonjour Juliette, bonsoir à tous.
Ben bon, bonsoir. Allez, merci.
Souffle.
Il est 18h sur France Inter.
De quoi est-ce que vous allez nous parler?
Elle a fait un micro-sommeil,
Clara.
Vous avez vu ça comme
non
ça? Elle s'est endormie.
Du livre de notre invité.
Mais oui! Voici celle qui va nous embarquer jusqu'à 18h, si elle veut bien rester avec nous, parce qu'on est un petit peu. C'est un peu lundi.
Ouais, c'est lundi.
Vous êtes.
Irène Frein.
Oh oui,
ça c'est chouette.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Ça fait vraiment... Oh, mais vous êtes là, vous n'avez pas vu. Bonjour Irène. Mais
j'étais encore à l'état de fantôme. Et, ah, oui. Et alors, après, je suis devenue hologramme. Et maintenant, je suis en vrai. Ah. Mais de vrai. Et que vous n'imaginez pas comme je suis vrai.
Mais voilà. Non, comment on peut s'en rendre compte? Qu'est-ce qui nous le prouve?
J'enlève mes lunettes.
Ah, oui, d'accord. Oui, c'est vous, d'accord.
Ah, c'est vrai, c'est oui, la vraie. Oui. Irène oui. Frein. Vous publiez L'allégresse de la femme solitaire. C'est paru au Seuil. C'est votre 40e roman, on n'est pas loin?
Oh non, non, pas 40. Pas 40. Je crois que j'ai dû écrire 15 romans dans ma vie, parce non. que comme je mets 2 ans à oui. les écrire, bien dans la bibliothèque, graphie, ils ont recensé tous les trucs et machin, oui, là, même de 15 pages.
D'accord.
Alors, oui. bon...
40e publication, mais 15e roman, on va dire.
Oui, je pense. C'est long d'écrire un roman.
Ben oui.
Il faut du temps pour fabriquer du temps.
Bien sûr. Amélie Nothomb, si tu nous écoutes, l'allégresse de la femme solitaire.
Sur les Belges, maintenant. On va voir autre chose.
Juliette Arnaud. On l'adore, on l'adore.
Alors, l'histoire, déjà, elle se passe dans un lieu très précis, les États-Unis, mais côte ouest, du côté du Pacifique, du côté donc de Los Angeles, un temps très précis, juste après la ruée vers l'or. Et donc les habitants d'un bout de terre qui est encore pas tout à fait civilisé voient descendre d'un bateau une femme qui ne parle aucune langue connue, qui vient d'une île dont on s'efforce de ne pas parler, Saint-Nicolas. Et cette femme irradie de joie et elle chante et elle danse. Et puis il y a un homme qui veut comprendre, qui voudrait aussi la protéger parce qu'il sait que les Indiens déracinés sont fragiles en terre cow-boy. Et si elle est charmante, cette femme est facile, notamment avec les enfants, elle ne semble absolument pas disposée à révéler ses secrets qui sont vieux comme toutes les années qu'elle a passées seule sur cette île. C'est une enquête, Irène Frein. En quoi est-ce que ça n'est pas un polar ?
Il y avait des bribes d'archives sur cette femme, des journaux, des recherches éparses. Et c'est peut-être un polar dans la mesure où j'ai voulu comprendre, mais il y a une voie de compréhension qui est celle du roman, de l'imaginaire. L'imaginaire est aussi important et efficace pour comprendre les secrets de l'histoire ou les secrets des êtres que la rationalité. Donc j'ai fouillé dans toutes ces archives qui... était en ligne parce que les chercheurs qui ont voulu éclaircir l'énigme de cette femme, dont on sait maintenant qu'elle remonte à une tribu qui était là depuis 9000 ans, peut-être 11000, les premiers qui ont passé le détroit de Bering pour s'installer sur le continent nord-américain. Donc l'énigme de cette femme est encore presque entière. C'est peut-être une chamane, c'est la dernière thèse qui est avancée, avec sans doute beaucoup de sérieux, je trouve. Et donc, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est le bazar qu'elle a mis dans cette ville. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'île, sauf que, bon, on connaît les événements tragiques. D'abord, le fait des Russes, et ensuite celui des Yankees, donc... équilibré. C'est l'histoire qui s'est équilibrée. Mais Zoto l'a foutu un bordel insensé. Parce que comme elle était immensément joyeuse, immensément tonique, et qu'elle allait vers les gens paume ouverte, qu'elle voulait comprendre qui étaient ces Blancs, et que manifestement elle attendait de cet endroit une vie meilleure, eux qui avaient des jeux sur la conscience... à son endroit et à l'endroit de ses compagnons de naguère, ben ça les a quand même mis dans une sale situation. Alors chacun va donner sa version, chacun va donner son passé, et le docteur Shaw, ce médecin dont vous avez parlé, qui s'en occupe, lui va prendre la vérité par petits bouts. En ce sens, c'est un peu là.
Clara Dupont-Monod.
Oui, vous parliez à l'instant d'archives, Irène Frein. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez travaillé comme une historienne pour ce livre-là?
Moi, je suis une curieuse. Oui, j'ai une formation. D'abord, j'ai une formation littéraire. Et je sais que la littérature, c'est toujours l'élucidation d'un secret, de quelque chose qu'on veut savoir. Toutes affaires cessantes, sinon, on ne tient plus très bien debout. Et donc, je connaissais cette histoire, mais je l'avais entendue pour des raisons de famille, de séjour répété dans cet endroit. Mais je me suis mise à chercher lors du second confinement parce que je n'étais pas sûre de pouvoir revenir dans ma famille qui est installée là-bas, que on se demandait à l'époque sans vaccin si on n'allait pas surtout plus âgé, n'est-ce pas, disons ça aimablement, si on n'allait pas mourir. Hein. Et c'était une époque assez tragique, elle est proche, mais souvenons-nous, elle était tragique. Et pour me changer les idées, je me suis mise à chercher. J'ai trouvé des archives en ligne, les journaux, et ces recherches qui ressemblaient à une charpie de recherche, mais qui c'était même, malgré tout, les nouvelles découvertes assez structurées.
Mais donc cet endroit dont vous parlez, là, c'est pas une image des Indiens hyper... c'est pas l'image d'Épinal des Indiens qu'on a d'habitude, c'est-à-dire c'est des Indiens qui sont, vous l'appelez le peuple des coquillages, voilà, c'est ça, des Indiens maritimes. Et ça, moi, c'était la première fois que j'en entendais parler.
Oui, c'est l'ouest de l'ouest. C'est-à-dire que les Américains ne se sont pas arrêtés aux montagnes Rocheuses, sont allés plus loin, et eux sont allés au bord du Pacifique. C'est la seule chose qui les a arrêtés. Puis finalement, ça les a pas arrêtés. Soit avisé qu'il y avait des îles au large de
Santa Cruz,
de Santa Barbara. Hein. La ville actuelle s'appelle Santa Barbara. Je la nomme pas parce que je veux pas que ça fasse Santa Barbara. Je fais une référence aux nuls.
Aux inconnus.
Alors, aux inconnus, aux nuls. Pourquoi je dis ça? Bon, je suis aussi spé, cela dit. Et donc, c'est une ville absolument délicieuse et charmante, assez bien conservée. Elle a pas mal de choses de l'époque espagnole. Et moi, j'ai pas vu s'y dérouler chez les personnes où je suis allée des sitcoms insensés. Oui, il y a Harry et Meghan dans un coin, mais eux, ils feraient du sitcom n'importe où. On les mettrait au Galapagos, ils en feraient autant. Ils vous appelleraient pour dire tout le mal qu'il pense de la reine d'Angleterre. Donc cette ville, en fait, je l'ai reconstituée à travers, comme vous avez dit, Clara, les plans, les archives. Mais ça déjà, vous savez, moi je fais pas des livres, surtout pas des romans, à titre de documentation. Ce qui m'intéresse, ce sont les humains. Et ces gens de l'Ouest qui étaient là, ces trappeurs, mélangés aux Hispaniques qui les aimaient pas, des mafieux espagnols, des Mexicains qui voulaient la peau des Espagnols, aussi des rescapés de la ruée vers l'or qui étaient plus ou moins des bandits qui étaient là à rôder. C'est une ville embryonnaire, un juge qui veut me faire la loi.
N'en dites pas plus parce que Clara Dupont-Monod ensuite va.
Donc j'ai bien aimé mettre en scène à travers cette femme le bordel.
Et ça s'appelle L'allégresse de la femme solitaire.
C'est un bordel joyeux.
C'est paru aux éditions du Seuil. Carrière Frein est avec nous jusqu'à 18h.
Vous pouvez dire la Frein si vous voulez.
Ça Frein, carrément.
Ça fera Western. Like this. Seesaw swinging with the balls in the school, and your feet flying up in the air. Singing, hey, diddle, diddle.
Walk This Way, Aerosmith sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et c'est Irène Frein, notre invitée. Et autour d'elle,
ah bah, la fine fleur du rock, hein, Clara Dupont-Mono, Laurence Bibon, Guillaume Meurice.
Oh là là là.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. J'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite.
Le journal de presque 17h17.
Monsieur le juge, regardez-moi. Est-ce que j'ai une tête de crapule?
J'hésite.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera de la prolongation du contrat
de Guillaume Meurice, hein, sur France Inter. On y est, enfin.
Non, celui de Kylian Mbappé.
Ah, je ne sais pas qui c'est.
On évoquera aussi la victoire.
La victoire de Guillaume Meurice.
Non, la victoire d'un Français à Roland-Garros.
Mais non, on parlera de science-fiction alors.
Non, vous verrez.
Ah bon,
arrêtez de ramener tout à vous, Guillaume. Bah, sinon, on parle de pull moche directement. Et là,
il n'y a pas de rapport avec moi.
On y va?
Ouais, si on y va. Allez, on y va. Et on commence par la politique.
L'événement du week-end, c'est bien sûr.
Et oui, la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.
Je pensais plutôt à Damien Abad, ministre des Solidarités, qui est accusé de viol par deux femmes.
Oui, alors Charline, si on commence à faire la liste des ministres inquiétés par les affaires judiciaires, on va pas s'en sortir. On n'a pas toute l'après-midi. Je vais dire à un moment donné.
Parlant de ça, BFM a interrogé Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin sur cette question hier.
Monsieur le ministre, vous n'avez pas échappé qu'un nouveau venu au gouvernement est accusé de viol. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester au gouvernement?
Il n'y a pas de commentaire à faire.
Tu m'étonnes.
En revanche, on attend le commentaire de PPDA.
Et oui, on a hâte. Politique toujours.
Dans le JDD, Elisabeth Borne a déclaré « Je ne mentirai pas aux Français ».
Ah, c'est fou de ne pas tenir une promesse aussi rapidement. Elle est nulle. On dirait vous, Charline, quand on joue à Ni Oui Ni Non?
Ah non, ça c'est faux parce que je gagne toujours.
Vous perdez toujours.
Mais non!
Voilà, perdu. Voilà. Comme Elisabeth Borne, nulle.
À l'issue du Conseil des ministres, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, a déclaré, je cite, « Ce gouvernement renouvelé ressemble aux Français ».
Ah, c'est fou, je pensais pas qu'il y avait autant de Français mis en examen, dis donc. C'est fou, ça.
C'est vraiment fou. Jean-François Copé est inquiet de la nomination de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation.
Alors moi, je vais vous dire, je suis hyper inquiet aussi.
Ah bon, de quoi?
Bah, que des journalistes demandent encore son avis à Jean-François Copé, ça des trucs qui sont quand même inquiétants,
non,
ça.
Non, mais c'était sur Europe 1, en fait.
Ah, pardon, oui, d'accord, je pensais que c'était sur une vraie radio.
Voilà. Hier, Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry étaient sur le plateau de LCI pour débattre au sujet de cette nomination de Pape Ndiaye. Ils ont parlé de racisme.
Il y a dans la police du racisme.
Des gens racistes, il n'y a pas dans la police du racisme.
Non, oui, c'est ce que je veux dire. Allez, arrête. Non, mais laisse-moi finir maintenant.
Mais tu dis n'importe quoi, c'est insupportable.
Voilà. Il est chouette, hein, le débat public en France. C'est vraiment un comportement de petit con, quoi.
S'il vous plaît, mais vous pouvez pas dire à l'antenne, vous salissez notre métier, Guillaume.
Non, c'est celui qui dit qui est d'abord.
Bah, toi-même, miroir fois l'infini.
Miroir doublé fois l'infini, voilà. Okay, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire.
Opposé à l'alliance NUP, Carole Delga estime être la femme à abattre pour la France insoumise.
Oui, voilà, juste après Jean-Michel Robichon et Martine Foubassier.
Et n'oublions pas le fameux Éric Valtoni.
Oui, j'oubliais Gérard Bouchou là.
L'avantage pour Carole Delga, c'est que comme personne ne la connaît, elle restera sainte et sauve.
Voilà, très bien. Sport à présent.
Sur les 6 Français en lice dimanche à Roland-Garros, un seul est passé au tour suivant.
C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé?
Beaucoup de défaites.
Non, mais comment ça se fait qu'il y en a un qui a gagné? C'est ça la vraie info, Charline, qu'est-ce qui s'est passé?
Et enfin, cette information internationale, la ville de Denver est passée d'une température de 32 degrés à moins 1 degré en moins de 36 heures.
Ah, passer d'une ambiance chaude et un climat glacial en moins de 36 heures, la ville de Denver a fêté à sa manière la nomination de Damien Abad au gouvernement.
Merci Guillaume Meurice. Il est 17h27 à Lorient. C'est la ville qui vous a vu naître, Irène Frein. Et on va aborder ce premier thème avec vous, le plus chaud de l'actualité. Chez LR, tout le monde savait. À l'Assemblée, presque tout le monde savait. Mais Damien Abad a tout de même participé ce matin au premier conseil des ministres du gouvernement Borne qu'il vient d'intégrer en tant que ministre des Solidarités. Mediapart a révélé la veille que deux femmes l'accusent de viol. C'est à la fois choquant et, on va dire, pas étonnant.
Vous savez que le CO2 pollue?
Je ne sais pas. Enfin, vous, du moins, vous me l'apprenez.
Monsieur le député, nous avons retrouvé un texto envoyé au ministère de la Transition écologique où vous dites c'est chaud, il y a de la fumée partout, les gens titubent et les gens vomissent.
Oui, c'est vrai. Je confirme parfaitement cet échange, mais il s'agissait en réalité d'une observation sur un bar animé du coin.
Bien. Alors, nous avons retrouvé dans votre boîte mail également un...
Alors, sur ce point précis, je dois vous informer que je ne sais pas me servir d'un ordinateur.
Et pourtant, vous avez échangé des mails avec la production.
Vous me l'apprenez à l'instant.
Je vous apprends quoi?
Ça aussi, vous me l'apprenez.
Est-ce que nous pouvons poursuivre notre conversation?
Nous avons eu une conversation.
C'est Brut, la parodie de Brut sur Canal+, de Bertrand Huskla. Alors, l'idée, Renfra, n'est pas de vous faire commenter, évidemment, ce cas précis, d'autant que c'est tout à fait systémique, et plus la présomption d'innocence, etc. Mais on a un nouvel exemple de ce « tout le monde savait ». C'est-à-dire qu'il suffit de lire Libération ce matin, et des témoignages anonymes chez LR, des cadres qui disent « oui, ben voilà, tout le monde savait ». Il précise donc que c'était devenu une blague récurrente de mimer le handicapé qui attrape une fille de force. C'est écrit noir sur blanc dans Libération.
Et c'est vrai que c'est très drôle comme blague.
Voilà, effectivement. Irène Frein, comment est-ce qu'on règle ce tout le monde savait? Comment est-ce qu'on peut y venir à bout sans verser dans la dénonciation sur ce côté systémique de cette chose qui est toujours un peu la répétition sans fin?
Je sors d'un livre qui raconte justement que personne ne connaît cette femme qui débarque et finalement le médecin en charge de la soigner et qui s'intéresse à elle, qui est à peu près le seul à avoir de l'empathie pour elle, finit par comprendre et que tout le monde savait. Donc je crois que la vie est faite de cloisons, de non-dits et que des vérités, quand elles sont aussi brutales, y a des connivences qui s'établissent dans les sociétés pour les enfouir, pour les couver. Et ce qui est sans doute le plus terrible dans le « tout le monde savait », c'est que, exactement comme dans ce que j'ai écrit dans ce livre, dès qu'on est à l'abri de murs qu'on croit sûrs, entre soi, dans l'entre-soi, ces vérités sont proférées, sont matière à souvent à plaisanterie. Et ce qui est terrible dans le mépris, parce qu'il s'agit, il faut appeler les choses par leur nom, dans ce mépris-là, le non-dit est une violence, une violence symbolique, dirait Bourdieu, mais une violence terrible, et c'est justement le sourire, je crois, la gaudriole. Cette espèce de zone qui est il y a une façon en France qui est celle de une zone grise comme ça de la gaudriole où ça fait sourire, et pour les femmes notamment il y a une culture de la gaudriole, c'est-à-dire que c'est un câlin, ouais, passer les fesses ouais, bon, voilà.
C'est en train de changer, ça, quand même.
Oui, c'est en train de changer. Ouais. C'est bien sûr en train de changer. Alors,
Mais c'est systémique et traditionnel et profondément ancré, vous voulez dire.
C'est-à-dire que je pense que du côté des hommes, d'un certain âge, il y a encore ancré l'idée que, ouais, bon, ça va, quoi, on va pas en faire un foin. Alors, c'est sûr aussi que ces terrains sont très, très, très mouvants, parce qu'on sait qu'il y a des cas où il y avait eu des fantasmes féminins. Mais le fantasme féminin, finalement, est souvent beaucoup moins répandu que la réalité des violences sexuelles. Et cette profération est très difficile chez les femmes. Très, très difficile.
Clara Dupont-Monod, rapidement.
Et très souvent, quand un monsieur met une main aux fesses d'une femme... Pardon, on dit, ah ben c'est latin. Il y a aussi un rôle du langage.
Ah ben oui, on est une société,
C'est pas une main au cul, c'est latin.
Et il y a un pays qui est à la fois latin et germanique.
Bien essayé.
Le langage est fait pour masquer. Vous savez, il y a une phrase très ancienne dans un texte d'un plus ancien de l'humanité qui dit « Les guerres commencent quand on appelle faux ce qui est vrai et vrai ce qui est faux ». On en a l'illustration, tous les jours, évidemment. Aussi bien pour la tragédie qu'on est en train de vivre à l'Est que la réalité quotidienne la plus sordide. C'est-à-dire qu'il faut mettre des vrais noms sur les choses. Et le fait de faire la démarche d'aller au commissariat ou devant les juges, ça s'appelle mettre les noms sur les choses. Quand ma sœur a été assassinée, eh bien, elle était morte de mort naturelle au motif que, ah ben oui, mais vous savez, elle est quand même morte cette semaine après à l'hôpital. Et puis après, il y a eu des... On a attribué ça à des pathologies dont je sais maintenant qu'elles n'existaient pas. Je le sais parce que ça a été prouvé par des expertises, etc. Il s'agissait d'un meurtre. Il ne s'agissait pas d'une agression. Et alors, surtout, si c'est sur des personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre. Les vieux, ça compte pas trop. Les vieilles, encore moins. Alors, elles comptent si, quand elles sont riches, quand elles sont à gigolo, et qu'on peut faire un grand foin dans les médias. Genre, imaginez que Liliane Bettencourt a été assassinée sordidement, à coup de marteau, par son gigolo.
Bon. Ah bah là, c'est le prochain roman d'Irène Frein.
Honnêtement, je me vois pas faire ça. Ouais, mais j'imagine. C'est vrai, c'est les noms sur les choses. Mm-hmm. Voilà, c'est tout.
Irène Frein avec nous. Et donc, je le disais, il y a un pays à la fois latin et germanique, c'est la Belgique, d'où vient Laurence Bibeau, chère Irène.
Absolument, alors attention, j'inaugure aujourd'hui la chronique interactive, je vais vous poser des questions, vous allez me répondre par oui ou non, mais je préfère que vous me répondiez oui. Attention, est-ce que je suis au bon endroit pour faire une chronique où j'implique un membre de ma famille?
Oui. Oui.
Est-ce que je suis au bon endroit pour faire une chronique partisane?
Bah, oui.
Est-ce que je suis au bon endroit pour faire une chronique de mauvaise foi?
Oui. Ah, oui.
C'est parti. Le lundi 16 mai, la chanteuse Angèle, membre de la famille, c'est fait, s'arrête enfin à Bruxelles avec le 95 Tour. Le spectacle qu'elle a déjà joué en France est dingue. Chronique partisane, c'est coché. C'est bien chanté, c'est bien dansé, c'est bien éclairé, c'est bien orchestré. Elle s'éclate. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir le lendemain dans quelques quotidiens francophones le fameux bémol belge. Entendez par là, oui. Mais, en effet, il lui est reproché, gentiment reproché, hein, je vous rappelle qu'on est en Belgique, parce que les Français sont méchants, d'avoir, je cite, proposé une mécanique trop huilée, un show trop parfait, trop réfléchi, trop mémorisé, en gros, que ce concert sentait l'hyper-préparation. Je m'étonne qu'on puisse reprocher, même gentiment, je rappelle qu'on est en Belgique, les Français sont parfois méchants, le fait qu'un spectacle soit mémorisé, réfléchi, les artistes sont des professionnels, même autour, vous voyez, j'en bredouille tellement, je n'y crois pas. Même autour de cette table. Ben oui. Imagine-t-on un critique, ici vous pouvez cocher mauvaise foi, imagine-t-on un critique dire de Guillaume Meurice, c'est très pertinent. Peut-être trop. Ces transitions sont excellentes. Peut-être trop. On se prend à regretter le Guillaume plus trébuchant des débuts. Et si c'était ça? Si c'était ça le hic? Dans un pays bancal comme la Belgique, où pour ne pas mourir de honte ou de chagrin, on a décidé de rire de tout, on adore les gens qui trébuchent. Peut-être que la proposition pop de la petite fiancée de la Belgique déçoit. Parce que si tout est réussi au pays de l'autodérision, de quoi va-t-on se moquer? Et je me mets dans la boucle, je suis la première à vous passer des archives saugrenues. Peut-être aussi que nous n'avons pas la bonne grille de lecture. Il faut vous rappeler, amis français, qu'avant Stromae et les autres, le paysage musical de notre enfant, certes, c'était hyper créatif, mais si vous voulez, ça naviguait entre de l'ultra pointu et du super ringard. Quant aux émissions de variété, elles étaient occupé en majorité par des vedettes françaises. L'ancêtre de The Voice Belgique, c'était un télécrochet tête d'affiche qu'on avait rebaptisé Tête à claque, un inventaire de kitscherie ringarde qui flirtait parfois avec la psychiatrie.
Alors, La Sirène, pourquoi c'est la chanson que vous allez chanter, s'appelle La Sirène?
Non, le titre c'est Aquarium, mais j'interprète le rôle de La Sirène.
Donna Dolores, elle chante depuis longtemps?
Professionnellement, non, mais depuis toute petite, je chante.
Très bien. Alors là, c'est un disque qui va sortir. C'est une préparation. On est déjà un petit peu sur les rails du métier.
Oui, le disque est déjà sorti.
Voilà. On écoute. Ça s'appelle Aquarium. C'est la candidate numéro 1.
C'est bien.
Non. Voilà, ça suffit. Et pour retrouver ça en intégralité, François Audin, regrettez qu'il n'y ait pas plus qu'il aille sur le site de la Sonuma.
Ah
ça,
oui.
Voilà, c'est devenu culte chez nous, c'est vous dire. Bref, la morale de cette histoire, c'est qu'en fait, chacun fait son boulot. Je veux dire, les critiques critiquent et les mamans critiquent les critiques qui critiquent leurs enfants.
Oui, mais oui, Laurence voilà. Bibeau, mais bien sûr.
Mais voilà.
Et ne soyez pas trop parfaite demain soir, car vous jouerez la dernière de votre spectacle Bibeau distingué au Cirque Royal de Bruxelles. Merci Laurence. On écoute Feu Chatterton, Cristaux Liquides, c'est sur la playlist France Inter, la programmation musicale de Djoubaka. Nous sommes en compagnie d'Irène Frein qui publie L'allégresse de la femme solitaire, son dernier roman paru au Seuil.
Moi je caresse ton visage sur mon écran tactile. Reste-t-il reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Adieu, vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi? Si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise. Où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? De cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
France Inter, Irène Frein est notre invitée. Tout va bien, Irène Frein?
Oui, je m'amuse beaucoup.
On est heureux d'être en votre compagnie, Clara.
C'est l'allégresse.
Ah, c'est vrai, pour nous aussi. Claire Dupont-Monod va chroniquer votre roman dans quelques instants. Avant cela, voici Guillaume Meurice, chère Irène.
Oui, alors moi j'avais un petit doute sur la fin du monde. Je me suis dit à un moment donné, ah, peut-être s'en sortir. Et puis après, j'ai vu que Macron, il avait confié l'écologie à Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher. Donc on est foutus. Voilà, on est foutus. Autant confier un porte-avions nucléaire à Juliette Arnault. Voilà, c'est une belle manière, je dirais, d'en finir avec panache. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est bien vivre la fin du monde, ne pas se laisser crever, se mettre en PLS comme ça, comme Elisabeth Lévy devant une bouteille de Volvic. Alors, comment bien vivre l'apocalypse? Je me suis rendu hier à la Survival Expo. C'est vraiment le grand rendez-vous du survivalisme. Parce que ce qui est bien avec le capitalisme, c'est que même s'il sait qu'on est foutu, on va tous crever, il va quand même tenter de te vendre un petit truc quand même au dernier moment. Le capitalisme dans un incendie, c'est celui qui te vend un Ricola fraîcheur contre les inflammations de la gorge. Vous voyez un petit peu? Alors, allons-y sans plus attendre parce que j'ai évidemment fait beaucoup, beaucoup de belles rencontres. Par exemple, un vendeur de lance-pierre, parce qu'on peut manger avec un lance-pierre.
Bien sûr que oui, on peut manger avec un lance-pierre.
Vous chassez au lance-pierre?
Oui.
C'est pas vrai?
Mon plus gros animal, c'est un ragondin de 5 kilos qu'on a mangé.
Vous avez mangé le ragondin?
Bah, bien sûr, c'est tellement bon.
Et bon appétit. Bien évidemment, un ragondin tué au lance-pierre avec une petite sauce gribiche préparée à la pioche. Voilà, on peut chasser et manger plein de trucs grâce au lance-pierre.
En ville, on a du pigeon à Paris. On peut avoir des chats errants, les rats.
Ouais.
Voilà, c'est très bon à manger. Et puis, maintenant, il y a les perruches dans Paris. Donc, des perruches, pourquoi pas. Aussi, le ramier, vous avez la poule d'eau. Ça, c'est des animaux que j'ai déjà chassés pour me nourrir.
Ben, bien sûr, quand le Burger King est fermé, comment on fait? Eh ben, un petit filet de rat chassé au lance-pierre, hein, une poule d'eau au début de Chaumont, puis on est bien, on est bien. Alors, on peut aller plus loin pour ceux, par exemple, qui aiment le fromage fondu. Même après la guerre nucléaire, l'apocalypse. Ben, attendez, bougez pas.
C'est un petit réchaud.
Faut faire de la raclette.
Gratinée. Donc, raclette gratinée.
Ça veut dire qu'on peut vivre une fin du monde en mangeant de la raclette.
En plus, on peut manger à 4 ou 5. La fouclette.
La fouclette, c'est formidable.
Bah parce que four à raclette et qu'il fallait être un peu fou.
Voilà, une petite fouclette, une petite fouclette. Alors je donnerai bien évidemment les références à Aymeric Lompré, qui est un petit peu notre influenceur cholestérol dans l'émission, et qui a une autonomie de 40 minutes sans fromage fondu. Donc là, il va s'en sortir. Mais il va aussi falloir penser à la bagarre. Qui dit fin du monde dit bagarre. Et pour ça, il y a Warrior Assault System. Attention. Comment il pense la fin du monde?
Nous, on fournit déjà les personnes qui vont travailler pour justement assurer la paix. Donc on ne peut pas penser à la fin du monde puisque c'est là pour la paix.
Mais est-ce qu'on peut assurer la paix avec une marque qui s'appelle Warrior Assault System?
Oui, parce que tout de suite, les personnes qui viennent voir notre site comprennent tout de suite le cœur de métier. Ouais. Quand ils voient le logo, ça leur parle tout de suite.
Bah, le logo, oui, c'est une tête de mort avec deux sabres.
Avec deux ailes, avec l'aile des anges, les anges de la paix. On pourrait dire.
Oui, on pourrait dire. Deux sabres, une tête de mort et des ailes. C'est vraiment une bonne idée de la paix. C'est immédiat, c'est l'image de la paix. Il manque juste une colombe avec une aile cassée et une tête explosée
un
par
Z
une banane.
Et un Z dessus.
Et un Z, voilà. Là, c'est vraiment la paix totale. On est chez Médecins du Monde, quoi, directement. Allez voir sur le site. Ça pue la paix et l'amitié entre les peuples. D'ailleurs, est-ce que le business est bon depuis l'offensive russe en Ukraine?
Effectivement, avec la situation qui se passe actuellement dans l'Est, on a effectivement un regain d'activité.
Poutine, ça vous fait du pognon, au final?
On peut dire ça comme ça, mais
c'est business is business.
Business is business, l'argent n'a pas d'odeur.
Ben oui, voilà. Mais attendez, parce que nous aussi, hein, on fait de la thune sur la misère du monde. Si tout se passait bien, on ferait quoi dans la mission? Ben on ferait rien, on se ferait chier. Hein, ça serait quoi la littérature, Clara, si tout allait bien? Si Aliénor d'Aquitaine n'exposait pas des crânes à la hache? Eh ben rien, pas de prix littéraire, pas de véranda. Et voilà.
Pergola,
bien sûr. Avec toutes ces thunes, quand ce sera la fin du monde, qu'est-ce qu'elle va faire, Clara? Comme tous les riches, elle va acheter un bunker. Ça tombe bien, bougez pas, je connais les vendeurs.
Donc, on a des abris qui sont conçus pour vous protéger de l'ensemble de ces effets indirects, indirects liés à des explosions, permettre de tenir en autonomie pendant une très longue durée.
Et c'est cher.
Ça va être des prix de départ de 100 000 euros.
Oui, c'est quand même pour les gens riches.
Pas forcément pour les gens, on va dire, qui se préoccupent de... qui sont prévoyants.
Voilà, des gens prévoyants, on va dire, prévoyants. Si vous n'êtes pas mort de faim en économisant pour votre bunker, bah, vous pourrez peut-être survivre.
Il doit faire crédit.
Voilà, il y a un crédit, on peut s'organiser, bien sûr. Vous appelez Irène. Irène prêtera de l'argent.
Voilà. Pour plus tard, après la fin du monde, quand je serai encore là.
Pour un remboursement après la fin du monde, c'est malin.
Il n'y aura pas de remboursement anticipé avec moi, je vais être très dure.
Oh là 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 là, je vois qu'elle a déjà... Vous êtes survivaliste un petit peu, Irène, attention.
Non, manière. Mais avec la fin du monde, faut pas hésiter.
Délirer, vous allez bien. De toute façon, je vais vous dire.
Il faut mettre des taux d'intérêt à combien en plus?
Ah, bah alors ça, je pourrais pas. J'ai pas creusé assez le sujet.
L'inflation avec la fin du monde, ça s'étudie avant.
C'est vrai que j'ai pas croisé de banquier à la Survival Expo.
Oui, mais enfin bon. Comptabilité bien ordonnée, ça continue avec la fin du monde.
Eh ben alors on va continuer, Irène, si vous voulez bien continuer, parce que je vais vous dire, avec ce vendeur de bunker, on n'a rien sans rien.
On a parfois des clients qui mettent deux fois le prix de leur maison dans leur bunker.
Parce que le problème, c'est pas que les gens riches, ils pourrissent la planète et après ils se construisent des abris pour se planquer des conséquences.
Alors ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, la plupart des grandes fortunes de la Silicon Valley qui nous disent que le monde va être sauvé par les technologies sont les mêmes qui se font construire des résidences sécurisées et des bunkers.
Oui, donc bon.
C'est pas bon signe.
C'est pas bon signe parce que les vendeurs de chaos, en fait, ils aiment pas trop ça, le chaos. Hein. C'est comme les vendeurs d'armes, c'est pas eux qui utilisent les armes. Les responsables du chaos, ils seront bien peinards dans leur bunker à boire du champagne. Ah merde, il y aura plus de champagne en fait. Attendez, Irène. Attendez, bougez pas.
On s'est spécialisé dans les champagnes sans fermentation malolactique.
Quel rapport avec le survivalisme?
Le rapport, c'est que le monsieur qui se construit un joli petit bunker, je lui souhaite bon courage pour boire de l'eau minérale pendant 5 ans ou 10 ans, sans ouvrir une petite bouteille de champagne avec sa femme. Ça se garde super longtemps.
Ah oui, c'est du champagne pour boire après la fin du monde, quoi.
Exactement.
Et voilà, ils ont pensé à tout. Alors moi, j'avais pensé à une solution pour éviter la fin du monde. C'était de chasser les riches au lance-pierre pour les bouffer. Mais on m'a dit, il y a un petit problème au niveau de la légalité. Donc, bonne fin du monde à tous.
Merci Guillaume Meurice, en duo avec Irène Frein et Juliette Arnaud, a un sujet à vous soumettre, Irène.
Les Américains ont beau être nuls en géographie, ils savent que l'Irak et l'Ukraine ne se situent pas dans la même région du monde. George Bush le sait lui aussi, alors quand il a évoqué récemment une invasion brutale et injustifiée par la décision d'un seul homme et précise qu'il parle de l'Irak, c'est un lapsus qu'il commet. Si ça se trouve, la conscience de George Bush a craqué sous la pression de 20 ans de mensonges. C'est toujours dangereux de dire aux gens « surtout, surtout, ne dis pas ça ».
Bon, je sais pas, moi, qu'est-ce qui me reste? Les bouchons dans Paris?
Tu rigoles ou quoi?
Bouchon dans Paris égale taxi, taxi égale le grand-père égale Auschwitz. Surtout, je ne veux aucune allusion à ce sujet.
Non mais attends, en fait, on peut parler de rien avec tes parents ?
Exactement. Moi, ça m'a pris des années à trouver des sujets qui ne parlent de rien.
Vous travaillez dans quelle branche ?
En fait, je travaille pas trop en ce moment. Mais j'ai fait plein de petits boulots avant.
Quoi ?
Par exemple, j'ai travaillé à la SNCF, dans les wagons. À la SNCF, dans les wagons. Et puis, sinon, j'ai aussi été monitrice dans des camps. Enfin, c'est, je veux dire, des camps, c'est pas des camps, hein, c'est des avec des tantes et des enfants et voyez.
C'est délicieux. Ouais. Vous faites ça comment?
Bah, c'est simple, au four.
C'était un extrait du Nom des gens, le film de Michel Leclerc. On a entendu Sarah Forestier et Jacques Gamblin. C'est vous, Irène, qui nous avez proposé ce sujet sur le lapsus magnifique, somptueux de George Bush. Est-ce que c'est parce que ça vous a fait rire ou est-ce que c'est parce que vous avez applaudi à la vérité qui finit par sortir?
Ben oui, et puis j'ai peur là depuis que je suis arrivée à la maison de la radio.
Vous me suivez chaque fois
là-dessus. Non, mais c'est formidable les lapsus parce que c'est l'inconscient qui prend sa revanche. La vérité elle finit toujours par sortir, mais là elle sort dans l'immédiat quoi. C'est pas comme avec les agressions sexuelles après un certain nombre de déclarations, de démentis, de choses diverses, de PPDA, de Strauss-Kahn. Hein, ça prend quand même des années. Et là, c'est juste, elle sort, elle triomphe, elle, c'est pas la langue qui fourche, c'est tout qui part en fin du monde finalement, et il n'y a pas de rattrapage possible, c'est sans appel.
Et est-ce que vous avez vu la suite de ce qu'il dit ? Donc il dit une invasion brutale par la décision d'un seul homme, celle qui se passe en Ukraine, en Ukraine. Ensuite il a le visage un petit peu abattu et ensuite il dit oui, il reconnaît, il le verbalise carrément en disant oui c'est vrai que ça marche aussi avec l'Irak. Et puis il dit j'ai 75 ans, les gens rient, lui il se met un peu à rire, mais comment vous la comprenez cette dernière phrase, j'ai 75 ans? Est-ce que c'est une excuse qu'il dit ou est-ce qu'il dit j'ai 75 ans et c'est le moment de dire la vérité?
Ah non, je crois qu'il cherche une excuse, c'est-à-dire que j'ai un âge où je suis dans l'immunité. Moi, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui trafiquait carrément la chaudière pour se venger, pour avoir un incendie. Et alors, le plombier, évidemment, était convoqué et le plombier a dit dans la chaufferie à cette dame « Écoutez, madame, c'est vous, quoi. Qu'est-ce que vous fichez avec ça ?» Et elle s'est redressée, elle a dit « Mais comment ? Mais vous osez me soupçonner ? Je suis une personne âgée. » Et c'est vrai que c'est très pervers. Moi, je trouve cette remarque extrêmement perverse. C'est le bouclier, quoi. Mmh. Alors, maintenant, c'est vrai que ça doit être assez... faire des choses dégoûtantes ou extravagantes en étant une personne âgée, je trouve ça magnifique parce que c'est la liberté. Aussi, il faut revendiquer quand on vieillit l'âge de la liberté, de se laisser...
chercher l'absolution, forcément.
Voilà, pas chercher l'absolution, mais peut-être aussi cherchait-il à occuper le rôle du crétin dans une série de Netflix.
Il l'avait déjà fait dans un film d'Oliver Stone.
Vous savez, à 75 ans, il peut se réembaucher. Enfin, le cumul des retraites, ça existe. Enfin, on pourra
retraiter. Irène Frein, on va revenir à votre roman avec Clara Dupont-Monod.
Eh bien oui, Irène Frein, parce que vous êtes notre actualité. Votre livre s'appelle donc L'allégresse de la femme solitaire. Pour rappel, ça se passe au 19e siècle, en Californie. Et ça raconte l'arrivée dans un village d'une indienne, vous l'avez dit, très joyeuse et très étrange. Cette arrivée, elle est narrée par le docteur du village, 75 ans. Le gars,
encore
il a 75 ans, votre médecin.
Oui, le médecin, le docteur quand Shaw. Il se souvient.
Ah bah oui, mais
pas 75 ans.
Oui,
de
mais
bouche,
même à 60, hein. En effet, mais même à 75 ans, vous décrivez un gars assez nickel, barbe impeccable, belle silhouette, yeux très bleus. Je me permets de le préciser car vous avez dû vous en apercevoir, mais dans cette émission, l'élégance est une notion bizarrement considérée de droite. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il faut être mal sapé pour être de gauche. Or, je suis très contente parce que votre docteur n'est pas de droite et il est élégant. Voilà, je me permettais de le noter. Par ailleurs, Il est perspicace. C'est lui qui remonte l'histoire de l'Indienne. Et surtout, c'est lui qui la regarde autrement que comme une bête curieuse. Donc, ce que vous mettez en scène, Irène Frein, avec l'Indienne, c'est d'abord le principe du métèque, au sens étymologique, métèque venant du grec méta et oikos, littéralement, qui a changé de maison.
Oui.
On aurait pu dire aussi barbare, et là aussi au sens originel, puisque les Grecs disaient barbare pour désigner quelqu'un qui ne parlait pas leur langue, exactement comme votre Indienne. Donc à la base, votre Indienne, c'est ça, c'est l'élément non natif du lieu, un élément surgi, rapporté, et qui suscite autant la surprise que l'attraction. Je cite « On remarquait sur son visage un je ne sais quoi de vertueux et de passionné dont l'attrait était irrésistible. » Cette phrase n'est pas de vous, Irène Frein, mais de Chateaubriand.
Excusez ah oui, je me disais, non, j'ai pas écrit ça.
Mais non, mais c'est très bien écrit, cela dit.
Mais j'ai pas écrit ça.
Absolument pas, c'est Chateaubriand, justement, oui, dans un court roman paru en 1801 et qui s'appelle « Atala ».
Oui.
Et qui raconte l'histoire d'une jeune Indienne nommée Atala, coupée de sa tribu natale. Alors elle, c'est par choix amoureux. Mais Atala et votre Indienne sont des cousines littéraires. Ce sont des femmes extraites et qui fascinent leur entourage parce qu'elles portent en elles une sorte de grâce, une pureté. Votre Indienne chante quand elle débarque sur la plage. Elle danse sous le regard ébahi et enamouré du village. Quant à Atala, et ben quand elle surgit, le narrateur, il est tellement ébloui qu'il la prend d'abord pour la Vierge, tellement, je cite, « son sourire était céleste ». Que fait votre Indienne quand elle voit le docteur pour la première fois? Elle lui sourit de façon céleste, ce sont les mêmes sourires. Votre Indienne portant, elle, un monde perdu, que la civilisation a en quelque sorte souillé. Je rappelle qu'elle a quand même vécu sur son île pendant 18 ans, ensuite qu'on l'en a sorti avec violence, que sa tribu, il en reste plus grand-chose. Alors évidemment, quand le docteur la regarde, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pense aussi à son île à lui, qu'il a quitté, qu'il va bientôt retrouver. Et il voit surtout d'un autre œil les commérages du village, les fins de pouvoir et de conquête qui lui semblent si dérisoires. Et ici, je pense aux mots de l'écrivain Michel Butor sur Atala de Chateaubriand. Cette phrase tellement calibrée pour votre livre, Irène Frein, Butor avait dit « Chateaubriand a découvert que les Indiens ne pouvaient pas être considérés comme des sauvages, mais comme des civilisés d'une autre espèce. Il est le premier poète d'une civilisation primitive. » Avant lui, précisons qu'il y a eu Montaigne, il y a eu Diderot, il y a eu Rousseau, bien sûr, qui pensaient à peu près la même chose. Reste que votre livre ne joue pas sur l'opposition entre une nature si pure et une civilisation malfaisante, mais vous jouez sur la complémentarité de deux chemins qui finalement ne se croiseront pas, la complémentarité de deux sentiments, la joie et la mélancolie, l'Indienne et le docteur, l'oiseau et le terrien. Je vous redonne les références. L'allégresse de la femme solitaire d'Irène Frein est parue aux éditions du Seuil. Atala de Chateaubriand, vous le trouvez en format poche.
Merci Clara Dupont-Monod.
Merci infiniment. Je suis très touchée. Je ne m'étais pas du tout rendu compte de ce que j'avais mis dans ce livre. En fait, je l'ai écrit dans une sorte de transe, enfin, contrôlée bien sûr. Mais ces personnages m'habitaient et peut-être aussi me sauvaient.
Irène Frein, Juliette Arnaud a un questionnaire de Parjupi Proust pour vous.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de la personne la plus célèbre née à Lorient, 10 étant Jean-Yves Le Drian, 0 étant Chimène Badi, puisqu'elle vient du Sud, hein, c'est le Sud, à combien vous situez-vous?
Je suis bas, je me donne la moyenne quand même. Je connais Jean-Yves Le Drian très bien, il habitait à un kilomètre de chez moi.
Mais lui aussi vous connaît.
Ah oui,
bien sûr.
Mais
5, 6,
vous allez le voir
quand
plus
même,
souvent,
mais bon, moi je n'ai pas eu ses responsabilités.
5 alors.
5.
Allez, voilà, 85.
Vous devez nommer une ambassadeur ou une ambassadrice de la Bretagne, mais ça doit être un personnage de fiction. Vous choisissez qui? Bécassine, le roi Arthur ou Astérix?
Anne de Bretagne.
Ouais. Mais elle est pour de vrai.
Oui,
elle est pour de vrai. Mais vous comprenez pas dans deux fictions.
Dans deux fictions, ben c'est une fiction Anne de Bretagne parce que je suis pas sûre du tout qu'elle ait été la femme qu'on a racontée, la duchesse en chapeau.
Je vous l'accorde parce que c'est lundi. Si Simone de Beauvoir pouvait devenir ministre d'Elisabeth Borne, vous inventeriez quel ministère pour elle?
Ah, peut-être le ministère de la Justice, ça décoifferait.
Donc une vraie justice, d'accord. Donc on a quand bah je vous dis fiction, vous faites la vérité. Quand je vous d'accord.
On voit bien le rapport de l'imagination et du document.
Bah non, mais faut que. Écoutez, c'est lundi, mais justement, faut que ça décoiffe.
Mais oui, on va se décoiffer. On dit qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Sur oui. qui l'avez-vous vu tomber la pluie?
Bah Jean-Yves Le Drian vient d'en parler.
Sur qui? Bah, il y a des cons partout, malheureusement, même en Bretagne.
Pareil, Guillaume passe beaucoup de temps en Bretagne.
Ils sont souvent machistes dans les milieux culturels bretons, les hommes. Ceux-là, oui, j'ai vu souvent la pluie tomber sur leur tête.
Ça commence à dénoncer.
Il faudrait que ça change.
Irène Frein, je rappelle votre roman L'allégresse de la femme solitaire est paru au Seuil. Merci beaucoup, chère Irène. C'est la fin de l'émission. Je vous dis à demain. Nous recevrons la comédienne Sophie Forte.
Elle a l'air.
Elle a l'air quoi?
Forte.